إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جل وعلا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وأن يرزقنا جل وعلا الاتباع على الحق حتى الممات وأن يرزقنا جل وعلا وإياكم حسن الخواتم وأن يجعلنا جل وعلا اللهم يا رب العالمين جنوبنا عن الفتن ما ظهر وما بطن اللهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا أو أرزقنا العلم النافع الفقه في الدين والفهم والحفظ وأجعلنا جل وعلا من الموحدين المخلصين آمين. طيب دونك إن شاء الله تعالى on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours sur notre matière, le comportement, en arabe on dit al-khuluq, naam sajjalt, al-khuluq, le comportement. On est donc reparti, après avoir terminé le premier ouvrage, Makarim al-akhlaq, les nobles caractères, c'est-à-dire les nobles comportements, où on a appris beaucoup de choses dans le comportement, déjà une base fondamentale. Dans cette épître, ce petit livre, ce petit ouvrage de Cheikh Al-Utsaimin, où on a appris énormément pour ceux qui méditent, qui comprennent et qui mettent en pratique. Ce premier ouvrage que nous avons fait, c'est inestimable. Comme on l'a dit dans des cours précédents, celui qui va comprendre et qui va méditer et mettre en pratique déjà ce qu'on a déjà appris dans le comportement. On avait expliqué qu'il pourra être avoir un statut plus élevé, chose possible, hein, d'avoir un statut auprès d'Allah plus élevé que des gens qui sont dans la religion, ce que vous voulez, des étudiants, des imams, des gens depuis 10 ans, 20 ans, etc. Et qui connaissent ces choses-là, mais qui ne les pratiquent pas. Ou alors qui ne connaissent pas ces choses-là, qui pensent que l'islam, il n'y a pas un comportement qui a une importance capitale, fondamentale. Naham. Tout ce qui est un pont vers le paradis, tout ce qui peut t'orienter, te faire entrer au paradis, c'est pas quelque chose de secondaire. C'est pas quelque chose de secondaire, quelque chose qui n'est pas important. Non. C'est quelque chose sur lequel tu dois mettre le paquet. Et le comportement en fait partie. C'est une des causes pour entrer au paradis. À ce moment-là, comme on dit, il n'y a pas de commentaire à ajouter, si ce n'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi tant d'autres, hein, parmi des versets, des hadiths, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la question lui a été posée, qu'est-ce qui fait entrer le plus au paradis? Le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a répondu, la crainte d'Allah, taqwa et le bon comportement. Donc à chaque fois qu'autour de vous, vous constaterez qu'il y a des gens qui prétendent que le comportement n'a pas une place élevée ou toute autre chose qui rabaisse le comportement ou autre, sachez que c'est une déviance et un égarement de leur part. Parce que justement, en parlant de voix des salafs, justement, en parlant de voix des salafs, les savants disent que la voix des salafs, c'est une croyance, c'est une voix, un manhaj, et c'est un comportement. Donc tu ne peux pas t'affilier à la voix des salafs si tu n'as pas concrétisé les trois. Sinon, on dira que tu as un manque. Et ce manque, il peut être une barrière pour toi le jour de la résurrection quand t'as entré au paradis. Alors on dira, mais comment, pourquoi, si j'ai le tawhid, etc. Déjà, on a vu dans l'ouvrage précédent que justement, le premier comportement, c'était le comportement envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tout le monde n'a pas ce comportement. Également, si on veut parler du comportement envers les autres, il faut savoir que une injustice faite peut empêcher, une injustice qu'on fait à quelqu'un d'autre peut nous empêcher d'entrer au paradis. On va donner un exemple, mais là on va donner un des exemples les plus graves. Un des exemples les plus graves. Parce que là, selon la parole des savants, d'abord la parole d'Allah au Ta'ala et la parole des savants, là ça peut être l'enfer éternel. Et c'est pas du polythéisme. Et c'est pas du polythéisme. Alors c'est quoi? C'est quoi ce péché, cette injustice si tu l'as fait envers quelqu'un d'autre, tu peux atterrir en enfer éternel. Cette injustice, c'est le meurtre. C'est le meurtre, comme le dit Allah Ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam. Celui qui tue un croyant, un musulman volontairement, sa rétribution sera l'enfer éternel. Après, on n'entre pas dans les cas particuliers. Allah y pardonne à qui il veut, Allah y châtie qui il veut, mais en général, c'est ça le châtiment. Comme vous le savez, à la fin des temps, le meurtre sera monnaie courante, si ce n'est pas déjà le cas. Hein? Le meurtre sera monnaie courante. Et les savants disent que il n'y a pas d'excuse, premièrement, et qu'également le croyant, il ne tue pas le croyant, le musulman, volontairement. Involontairement, ça peut arriver, mais il y a ce qu'on appelle. Il y a ce qu'on appelle elles disent, il y a la compensation. Hein. Si tu tues un musulman volontairement, c'est l'enfer éternel. Si tu tues un musulman par erreur, on dit que tu devras donner le prix du sang. Et il y a d'autres choses également. Et si tu tues un mécréant par erreur, tu devras libérer un esclave. Ça, c'était à l'époque du prophète, alayhi salam. Et si tu ne peux pas, il y a plein de choses. Il hein. y a jeûner 2 mois consécutifs, etc. Juste, on va pas rentrer dans le fiqh, dans le tafsil, dans le détail. C'est juste pour vous dire que, attention, ne croyez pas que le comportement, c'est quelque chose de moindre. Il y a des gens comme ça, ils veulent nous faire croire ça, en fait, pour maquiller, usurper eux-mêmes leur mauvais comportement. Allah Ta'ala ne leur a pas facilité, il ne leur a pas ouvert cette ni'ma, cette faveur d'avoir un bon comportement. Alors eux, ils vont pas être là toute la journée à vanter le bon comportement. Eh oui. Mais il faut savoir que le comportement, il a une importance tellement importante qu'on vient de vous expliquer, le mauvais comportement, il peut te faire aller en enfer. Le messager d'Allah, alayhi salam, a dit, les gens qui seront le plus proches et les plus aimés auprès de moi le jour de la résurrection, ce sont ceux qui ont un bon comportement. Et ceux qui seront les plus détestés et les plus loin de moi le jour de la résurrection, ce sont ceux qui ont un mauvais comportement. Si avec ça, on n'a pas compris, Wallahul Musta'an, faut invoquer Allah qui nous guérisse. Il faut invoquer Allah Ta'ala qu'il nous guérisse, si on n'a pas compris ça. À partir du moment où on a compris, faut se lancer directement dans la pratique. Si tu as chaud, extrêmement en parabole, hein, si tu as chaud, tu as extrêmement, mais vraiment ce qu'on appelle chaud, hein, et que tu comprends qu'il faut que tu plonges dans l'eau. Tu devras te hâter de plonger sans regarder à gauche, à droite, devant, derrière. Tu plonges. Comme quand tu as soif, tu vas boire. Au moment où tu as compris l'importance du comportement, des sciences religieuses, du tawhid, aujourd'hui on dira le comportement parce que c'est un cours de comportement, tu plonges, tu ne cherches pas à comprendre. T'as pas le temps avec les ambiguïtés. Oui, mais ce n'est pas les gens de la sunna qui mettent l'accent sur le comportement, ceux qui disent ça, c'est pas les gens de la sunna, toutes ces ambiguïtés de jaloux, de malade du cœur, de maladie du cœur, faut pas y faire attention. Cherche ce qui est profitable et utile pour toi. Il y aura toujours ce qu'on appelle des coupeurs de chemin, des bandits. Comme dans la dunya, il y aura toujours des voleurs. Tu vas ouvrir un magasin, il y aura toujours des voleurs. Ne cherche pas à comprendre. Ne dis pas pourquoi il y a des voleurs, pourquoi. Fais avec. Il y a des voleurs, et ben moi, j'avance quand même. Je vais pas fermer mon magasin parce qu'il y a des voleurs. Ou je ne vais pas tomber dans certaines ambiguïtés. Je ne donne plus la sadaqa parce que y en a, ils se déguisent, ils font semblant. Wallah al-musta'an. Non, ne tombe pas dans ces pièges-là. Toi, tu donnes pour Allah, c'est pas grave. C'est pas grave. Sauf si tu as les preuves, les témoignages, etc., des preuves concrètes que c'est quelqu'un qui triche ou etc., un faux pauvre, un faux pauvre ou un faux frère ou une fausse sœur. Là, c'est une autre histoire. Mais sinon, ta niya, elle est pour Allah. Le comportement, c'est la même chose. Toi, le comportement, tu le fais pas pour les gens. T'as pas besoin des gens incompétents, surtout incompétents aujourd'hui à notre époque. Énormément d'incompétence. Tu n'as pas besoin des gens incompétents pour te dire ce que tu as à faire ou pas à faire pour aller au paradis. Tout est clair. Tout est clair aujourd'hui. Il suffit juste d'avoir la bonne lumière. La bonne lumière, c'est les bonnes personnes qui vont t'orienter, les personnes qualifiées. Parce qu'aujourd'hui, alors ça également, c'est un sujet très... On a parlé beaucoup hein, dans la classe des anciens. C'est un sujet également qui demande énormément de temps à parler, en reparler pour que ça soit ancré chez les étudiants. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, sur les réseaux sociaux, vous allez voir, ça a un rapport avec le cours. Hein. Sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gens. Alors ça part d'une bonne intention. Il n'y a aucun problème. Hein. Tu veux partager la religion d'Allah, faire du khair, les hasanat, c'est très bien. C'est une intention honorable, louable, comme vous le savez. Hein. Le problème qui se pose après, c'est que comme on essaye depuis le début de vous expliquer, parce que faut vivre avec, hein. Faut vivre avec, c'est qu'on a un grand ennemi qui a à sa disposition des énormément d'instruments, de stratagèmes. Il a eu le temps également, en plus de 70 000 ans, il a eu le temps de se former, etc. Il a eu le temps également de former une armée également. Et alors ne crois pas que tu vas entrer comme ça dans la dawa, propagée, etc. Et que tu vas faire dawa sans problème, tranquille. Le shaitan, il va te laisser orienter des gens que lui, sur lesquels il a une sorte de mainmise. Une sorte de mainmise. Ne crois pas ça. Le shaitan, il va venir. Peut-être par l'intermédiaire de gens. Alors toi, tu peux pas savoir, hein, ça peut être des djinns forme humaine ou des chayatines humains ou des chayatines djinns. Ils vont commencer à te gonfler, à te piquer, à te poser des questions, etc. Et toi, tu vas t'y croire. Cette situation que je suis en train de vous transmettre, croyez-moi, elle n'est pas utopique. Hein. Dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Toi, tu vas commencer à t'y croire. T'as jamais étudié les sciences religieuses. Donc tu vas commencer à sortir de tes prérogatives, ce pourquoi les ulama ont autorisé de partager. Il n'y a pas de souci sur ça, faire des groupes de partage, etc. Mais il y a quand même une condition que certains savants et mashayikh ont mis, on va vous la dire après. Vous allez voir que ça fait toute la différence. Et toi, tu commences à sortir tes prérogatives, tu commences à faire des listes, lui il est bien, lui il est pas bien. Tu commences à entrer dans des sortes de mises en garde indirectes. Ça y est, tu as dépassé ton niveau là. Tu as dépassé ce pourquoi tu as été autorisé. Et le shaitan, il va te pousser encore plus, encore plus, encore plus. Et après, tu vas commencer à croire que tu peux te mettre au niveau même de certains étudiants. Comme moi, certaines fois, il y a des gens qui me contactent. Ouais, mon frère, pourquoi t'as dit ça? Wallah al-musta'an. Comme je suis courtois. J'essaye de ne pas... je m'occupe pas beaucoup des réseaux sociaux, de moins en moins. Mais quand c'est le cas, où on doit répondre, la première chose qu'on a envie de dire, mais on ne le fait pas, sauf si la personne elle est vraiment virulente, c'est... c'est quoi ton bagage scientifique, barakallahu fik? C'est quoi ta biographie? T'étais où il y a 20 ans? Quand tu étais à la maternelle? Et que nous, on était devant les savants. C'est pas péjoratif, hein. Ne le prenez pas mal. C'est qu'une personne qui t'agresse, ou qui n'est pas à sa place, faut la remettre en place. On fera jamais ça avec quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui vient proprement, qui est respectueux. Mais il y a des gens, qui tu es? Qui tu es, petit frère? Petit frère, qui tu es? Tu n'as aucun bagage, tu n'as... On a envie de leur dire parce que normalement c'est comme ça. Je ne parle de questions scientifiques uniquement avec une personne qui a minimum, un étudiant qui a minimum 10 ans de dawa. Même si tu as un étudiant depuis 10 ans, si tu fais pas la dawa, tu es juste étudiant, je veux ni de ton conseil, ni que tu parles avec moi. Alors, c'est pas de l'orgueil si vous voulez, hein. C'est, comment dirais-je? Parce que c'est une personne, si tu donnes pas certains critères, si cette personne elle a pas certains critères, tu sais automatiquement que elle va sortir du, elle va être hautaine, elle va être, mais quelqu'un qui a 10 ans de Darwa derrière elle, et des fois ça peut, même quelqu'un qui a 10 ans derrière lui, bon, il m'en va revenir au, vous inquiétez pas, j'ai vu vos commentaires, on va les lire après, on va revenir au centre de ce que je voulais dire. Petit à petit, Shaitan, il te fait sortir de tes, de ce pourquoi tu es habilité, tu as le droit, c'est-à-dire le partage. Et tu vas commencer à t'y croire. Oh là là, on est gentil, hein, 10 000 abonnés, 5 000 abonnés, mashallah, même les étudiants, ils n'ont pas autant d'abonnés. Et ça y est, tu t'y crois. Tu te crois au-dessus des étudiants, des mashaïrs. Et énormément de gens comme ça, eh ben, doucement, doucement, ils ont dévié. Je vous le dis, je vous assure, hein. Ils ont commencé à entrer dans la darwa, à se prendre pour des guides, des gens qui orientent, alors que c'est interdit. Si tu n'as pas le bagage, autorisation, etc., c'est interdit. T'as pas le droit de faire ça. Toi, tu as juste le droit de partager. On t'a pas dit de juger, de. On t'a pas dit ça. Et bien, énormément de gens aujourd'hui, ils font ça. Et ça les amène à avoir un comportement. Le shaitan, il les a eus. Il les a eus. Ça les amène. Parce que vous savez ce que disent les ulama. La darwa, à quelque niveau qu'elle soit, même propager un hadith ou une parole, n'importe quoi, si tu ne maîtrises pas ce que tu vas partager ou ce que tu vas dire, les savants disent, il est obligatoire pour toi de t'abstenir. Mais pourquoi ça? Il y a bien une raison. À votre avis, pourquoi? Tout simplement parce que en ayant pas la maîtrise de ce que tu transmets, eh ben, tu vas faire des dégâts. Et c'est ça qui se passe. Les gens, ils font des gros dégâts parce qu'ils ne maîtrisent pas, ils sont pas habilités en fait. Tout le monde se mêle. Est-ce que tout le monde joue le chirurgien, le docteur? Est-ce que tout le monde joue le boulanger? Malheureusement, dans notre religion, tout le monde veut jouer le talibul ilm, tout le monde veut jouer le. Chacun doit rester à sa place. Propager, c'est une très bonne chose. Voilà, j'ai vu des images, elles me plaisent. J'ai vu, attention, bien sûr, on reste dans la voie des salafs. Le partage, c'est formidable. Mais ne sors pas de ton, de ce pourquoi tu es autorisé. Tu es, par exemple, apprenti boulanger. Ne va pas prendre la place du boulanger. Il t'a dit, t'es pas apte encore à faire le pain. T'es pas apte encore. Faut te lever à 3 h du matin, faut pétrir la pâte, il y a plein de choses. Il y a même des mouvements, pour vous dire, vous le savez. Il y a même une expérience qui fait que tu vas acquérir certains mouvements que l'apprenti ou celui qui vient d'arriver, jamais, jamais il va les acquérir comme ça, sans une expérience, sans 10 ans derrière lui ou quoi que ce soit. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens sur les réseaux sociaux, ils ont outrepassé ce droit, ils s'en moquent. Ça y est, moi j'ai 10 000 abonnés, je suis mieux que toi. Dans ce cas, le shaitan, il est mieux que nous tous. Eh oui. Comme l'a dit un savant, si c'est une question d'abonnés, de 10 000, 20 000, 100, 1 million d'abonnés, dans ce cas, ce shaitan, il est mieux que tout le monde. Ce n'est pas une question d'abonnés. Peut-être une personne, il a un abonné comme le prophète qui est venu et qui avait une personne qui l'a suivi. Mais nous, aujourd'hui, on regarde la surface. Oh, ils ont des abonnés. Oh, les vidéos, elles sont super. Bon, ça, on peut comprendre le bling-bling, comme on dit. Ça, on peut le comprendre. Le nifs, il est jeune, ils sont beaucoup attirés, les belles vidéos, ça brille, les anachides, machin. On peut peut-être le comprendre, mais sache que ce n'est pas une preuve de vérité. C'est là où tu peux te faire tromper. Peut-être que quelqu'un, il n'y a pas de bling-bling, les vidéos, les images, elles sont à l'arraché, façon de parler, hein. Elles sont pas au top, il n'a pas fait ça avec la caméra de professionnel, il n'a pas une équipe derrière qui s'occupe de tout ça. Mais peut-être que le contenu va te sauver le jour de la résurrection. C'est ça qu'il faut regarder le contenu. Subhanallah. Alors aujourd'hui, c'est une sorte de. Les réseaux sociaux, malheureusement, c'est une sorte de fawda. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un il tient un réseau, un groupe, il met ce qu'il veut dedans. Tu peux rien lui dire. Non, j'enlèverai pas. On le conseille, par exemple, une personne, il a mis des images qui sont pas correctes, qui conviennent pas, des vidéos d'une personne qui conviennent pas, qui dit des gros mots, par exemple, ou autre, qui insulte les gens. Ce serait bien que tu retires tes vidéos ou tes images. Non, je ne les retirerai pas, je fais ce que je veux. Voilà. Alors que quelqu'un qui a du recul, un étudiant, ou s'il a fait une erreur, ou si ça ne convient pas, il va revenir en disant, voilà, je vais retirer ça parce que j'ai fait une erreur, ça ne convient pas. Voilà. Mais toi, tu n'as pas cette clairvoyance, tu n'as pas cette science, tu n'as pas cette sagesse, tu n'as pas cette douceur pour savoir quand tu vas faire une erreur et quand c'est pas une erreur. Voilà, tu sauras pas parce que t'as pas d'ilm. Et le shaitan, il va t'avoir, non, non, t'es sur la vérité, continue, continue, alors que t'es complètement à côté. Et ça, c'est une manière pour le shaitan, c'est un stratagème du shaitan pour semer la zizanie chez les gens de la sunna. De pousser les gens qui n'ont pas à entrer en première ligne à les pousser à venir pour semer la zizanie, pour semer la confusion. Regarde, il y a des gens, ils disent pas pareil que les étudiants. Regarde, il y a des gens, regarde, elle a dit ça, lui, il dit ça. Et après, ça sème la confusion. Il y en a, ils savent pas comment faire dawa, ils ont un super mauvais comportement. Super mauvais comportement, ils parlent mal, voilà, ils savent pas gérer. Et ben ceux-là, tu les trouves au milieu dans la dawa. Les gens, ils vont dire, c'est ça la dawa? C'est comme ça votre dawa, vous faites comme ça? Non, non, et quand tu leur expliques qu'il y a des gens qui ne sont pas habilités, qui sont venus se mettre au milieu, ce n'est pas de notre faute à nous. On n'arrête pas de dénoncer ça. Quand tu vas dénoncer ça, qu'est-ce qui va se passer? Attention, lui, il faut le faire tomber. Alors, il y a des gens, ils s'abonnent chez vous. C'est du comportement, hein, ça. Ça, je vous mets en garde contre un certain mauvais comportement qui peut mener à une injustice envers ton frère ou ta sœur, qui eux sont qualifiés pour faire dawa. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne, on espionne, on attend, on attend, on attend la moindre ambiguïté, le moindre. Et ça, il a interdit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les ulama, ils ont interdit ça. Wala tajassasu, ne vous espionnez pas. Ils sont là. Ils vont écouter tes cours, ils vont regarder les images que tu fais, ils vont regarder la moindre ambiguïté. Même s'ils savent qu'il n'y a pas d'ambiguïté, ce que tu as dit, en vérité, c'est clair, hein. C'est clair, hein, pour les gens de la vérité. Non, mais comme on sait que ça peut prêter à ambiguïté, on va lui tomber dessus. Ou alors, s'il a essayé d'aider quelqu'un que tout le monde voit comme un grand méchant loup, que fallait pas l'aider, fallait taper sur le clou, taper, 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 jusqu'à le faire tomber aux oubliettes. Et un jour, il y a un étudiant, il s'est dit, non, faut pas être comme ça. Faut essayer de lui montrer la vraie voie des gens de la sunna, le bon comportement, ce qu'on doit faire tous normalement. Lui donner sa chance. Viens, on va essayer de t'apprendre, on va essayer de te montrer. Peut-être que tu connais pas en réalité. Si tu as essayé de faire ça, eux, ils vont considérer ça comme une déviance, une erreur. Est-ce qu'ils ont posé la question? Est-ce qu'elle a été posée à un savant? Est-ce qu'elle a été posée à un savant? L'étudiant, lui, il a mesuré le pour et le contre. Il a vu certains paramètres, certains intérêts par rapport à certains méfaits que eux-mêmes, ils sont à des années-lumière de connaître ces choses-là. Des années-lumière. Mais par rapport à leurs abonnés, tout ça, nous, on est à la hauteur de l'étudiant. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Vous voyez un petit peu la catastrophe. Et après, les gens, ils vont dire, ah ouais, regarde l'erreur qu'il a fait, l'étudiant. Subhanallah, ils vont s'éloigner d'étudiants et ils vont se rapprocher de ces ignorants. Toutes ces chaînes, des ignorants en réalité, qui eux, si tu regardais vraiment, parce que les gens de la sunna, ils font pas ça, on va pas regarder leurs erreurs, mais eux, pour de vrai, si tu regardais vraiment leur dossier, tu verrais que. Et puis après, par la grâce d'Allah, comme Allah, il est juste, et ben leur dossier, il est sorti. Des choses très graves. Voilà. Ce que je voulais vous dire, on a beaucoup insisté sur ça à l'Institut, avec la première classe, également sur nos cours de la parure de l'étudiant sur YouTube. On a insisté beaucoup à faire attention. Nous, à l'Institut, on forme des gens pour pas être comme ça. On veut que les gens, les étudiants, soient tout le contraire de ça. Wallahi, même si un ennemi de l'islam, quelqu'un qui vous crache dessus, qui vous insulte, montrez-lui le bon comportement. Et peut-être qu'en lui montrant le bon comportement, comme je vous avais raconté une fois, une personne est venue avec des menaces de meurtre, de bagarre, de meurtre. Une personne comme ça est venue, c'est un musulman. On lui a répondu, nous, excuse-nous, on n'entre pas dans ce stratagème du shaitan qui est d'assassiner nos frères ou de se battre avec nos frères, etc. On n'entre pas dedans. Wallah, ça a été un rappel pour lui. Je crois qu'il est marqué à vie. Hein. Il est marqué à vie. C'est comme ça que vous devez agir. C'est comme ça qu'on doit agir. Pas comme on parlait hier d'une fausse, un faux manhaj inventé où tout le monde et tout le monde, n'importe qui peut parler, a le droit à la parole. Subhanallah, on n'est pas dans un débat télévisé hein, où n'importe qui, même dans un débat télévisé, tu demandes la permission. Al-Muhim. Alors, quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Barakallahu fikum, mashallah. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Par expérience personnelle, les réseaux sociaux développent une croyance de surface. Mashallah. D'une minute à l'autre, on passe d'un haqq à une ambiguïté grotesque, sans faire la différence sans faire la différence. Point. Allahu musta'an. Bien dit. Franchement, c'est très très bien dit. Par expérience personnelle, les réseaux sociaux. Et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Barakallahu fikoum, mashallah. Tout ça, c'est très intéressant pour les étudiants. Profitez-en. Wallah, même du côté des frères, on va lire un petit peu. En tout cas, barakallahu fikoum. Vous inquiétez pas, ça sera compté pour vous comme participation. Parce que, wallah, des fois, même avec certaines paroles de sagesse, on peut faire des images. Des belles images. Ça, c'est une très belle parole. Hein. Les réseaux sociaux, comme on vous a dit en deux mots. Hein. Un jour, on a un étudiant, un des anciens étudiants dans la classe des anciens, qui nous a dit, j'ai appris plus en quelques mois à l'institut qu'en 5 ans à bricoler dans les réseaux sociaux. Subhanallah. C'est une vérité. Hein. Tous ces gens-là, est-ce qu'ils vous apprennent l'islam? Tous ces gens dans les réseaux sociaux, les groupes, on n'est pas en train de les dénigrer ou de les blâmer. Mais est-ce que tu apprends l'islam comme vous allez l'apprendre dans un institut quand on te dit, tu vas apprendre les sciences religieuses, viens, je vais t'apprendre. Là, tu vas apprendre, c'est quoi? Les sciences religieuses dans un institut, mais dans les réseaux sociaux, tu vas apprendre quoi? Des petites fawaïdes, des petites paroles, mais ça va pas te former des bases sur lesquelles tu pourras toi-même plus tard enseigner. Non. Taïb, alors, on est où? Alors, assalamu alaikum, alaikum salam, je ne vois plus le PDF d'hier. Oui, il faut que je le révise, inshallah ta'ala. J'ai des petites révisions à faire sur ce PDF. Inshallah, Cheikh Abou Youssouf. Alors, assalamu alaikum, prof. Wa alaikum salam, élève. S'occupe par des sciences bénéfiques afin d'en tirer chaque fois un avis nouveau. Et une raison pertinente. Celui qui est constamment occupé par la science ne cesse de s'élever dans la science, la raison et le bon comportement. Mashallah. C'est très beau. La science te montre qui est Allah. Quelle voie suivre pour arriver à lui. Comment utiliser les moyens licites afin de faire des adorations par lesquelles tu te rapproches d'Allah. C'est joli, mashallah. La science est au même niveau que le pouvoir et les biens. Celui qui obtient la science a obtenu toutes choses et celui qui manque cette science a manqué toutes choses. Très belle parole. Toute science concerne bien sûr les sciences utiles, bien sûr, de la religion. Qu'est-ce que l'irja? On a vu ça, l'irja, dans un cours précédent, Tawhid. Sachez que ce mot tire sa racine étymologique dans la langue du verbe ijra, ou ajra, pardon, qui signifie reporter. Retarder. Ici, il s'agit de retarder les œuvres de la foi, Quand on dit par exemple Ramla al-Ajra, c'est-à-dire Ramla Ajra, c'est-à-dire il a reporté ou retardé quelque chose. Ils disent, faites-le attendre, lui et son frère, et envoie des rassembleurs. Donc les murja ont été appelés ainsi car ils ont reporté, retardé les actes de la foi. Et d'autres termes, en d'autres termes, ils ont séparé la foi des actes. Inch'Allah, comme c'est assez long, on va le partager dans les groupes. Cheikh Sadio, hein. En tout cas, barakallahu fik. On va le partager dans les groupes. Jazakallahu khair. Tayyib. Alors, c'est tout ce qu'on a. Est-ce que j'ai lu? J'ai tout lu. En tout cas, barakallahu fikoma. On voit que vous avez bien compris tout ça. C'est très important. On a parlé, dans le cours précédent, on avait commencé à parler. On est revenu au tout début de notre ouvrage, Kitab al-Ilm, de Cheikh Al-Uthaymeen, le livre de la science. On avait donné la définition de la science en disant que la science est le contraire du comportement. C'est la perception catégorique d'une chose telle qu'elle est en réalité. Retenez cette définition, hein. Si on vous demande la définition de la science, c'est très important. Toi, tu étudies la science et tu ne sais pas ce que ça veut dire le terme science. Le terme science, c'est le contraire de l'ignorance. Le terme science, sa définition veut dire, c'est la perception catégorique d'une chose telle qu'elle est en réalité. D'accord? Retenez bien ça, c'est très important. On le verra et on le reverra, on la reverra cette définition. Elle est très 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 propagée. Naham. Du point de vue terminologique, certains gens du savoir ont défini la connaissance. D'autres gens du savoir ont tout simplement dit la science est quelque chose de tellement clair qu'elle se passe de toute définition. Mashallah. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit. Donc il y a certains savants qui ont donné une définition à la science, et il y en a d'autres qui disent que c'est la science est quelque chose de tellement clair qu'elle se passe de toute définition. Allahu Akbar. Hein? Allahu Akbar. Ce qui nous concerne à ce titre, c'est la science religieuse. Al-ilm al-shar'i. Nous entendons par ce terme la science au sujet de ce qu'Allah ou Ta'ala a fait descendre sur son envoyé comme preuve évidente et comme la guidance Huda. Alors, ce n'est pas terminé la parole de Cheikh Al-Uthaymeen, mais il faut savoir que dans un premier temps, si Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, tout de suite, il marque une démarcation, une différence, une certaine démarcation par rapport aux sciences religieuses, retenez bien, c'est parce que la science qui est louée par Allah, dont Allah Ta'ala fait les éloges, dont Allah Ta'ala a dit que sa conclusion, sa récompense sera le paradis, ce sont les sciences religieuses. Pourquoi il faut marquer le coup, la différence? Parce qu'il y a des gens, qui vont, et ça c'est concret, hein, par exemple les frères musulmans, qui vont essayer d'inculquer aux gens le fait que les sciences mondaines, elles sont au même niveau que les sciences religieuses. Si tu apprends les mathématiques, ou si tu apprends les sciences, ou si tu apprends la philosophie ou la géographie, certaines personnes vont te dire, c'est aussi valorisant que les sciences religieuses. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Chez les gens de la Sunna, les sciences qui sont celles pour lesquelles Allah Ta'ala élève en degré, celles pour lesquelles Allah Ta'ala fait entrer au paradis, c'est la science, les sciences religieuses. Religieuses. Et au fur et à mesure de l'enseignement, vous allez avoir de plus en plus d'argumentations, ne vous inquiétez pas. Ne serait-ce qu'à la fin du livre Kitabul Ilm, ou un peu plus de la moitié vers la fin, en tout cas sur le chemin de la fin, on a étudié ça avec les anciens et les élèves, les anciens, maintenant presque une année. Hein. Allah Ibarak, pour la plupart, on a étudié ça à la fin du livre, vous verrez, il y a des questions-réponses de Cheikh Al-Uthaymeen, très profitables, sur un peu tous les sujets. Et la question est beaucoup posée sur les sciences religieuses, les sciences mondaines, c'est quoi le mieux, qu'est-ce qui passe en premier? Et Cheikh Al-Othaymine, clairement, il dit que ce qui passe en premier, ce que les sciences que tu dois pas lâcher, que tu dois, auxquelles tu dois t'accrocher jusqu'à ta mort, c'est les sciences religieuses. Parallèlement, il n'y a aucun souci que si une science mondaine, elle t'est utile pour la communauté musulmane, pour toi-même, c'est ton travail, etc., il n'y a pas de souci que tu apprennes des sciences religieuses qui sont en conformité avec la législation. Tu vas pas devenir prof de philo. Tu vas pas devenir prof de philosophie ou de sociologie. Parce que, attention, sociologie dans le sens péjoratif du terme. Parce que la philosophie, on sait que ça peut mener, il y a beaucoup de mécréances dans la philosophie. Donc toi, tu ne vas pas venir devenir prof de philosophie parce que tu vas t'égarer tout seul. Tu vas t'égarer tout seul. D'accord? Mais s'il y a des sciences qui sont pas des sciences religieuses, mais qui sont autorisées, elles ne contredisent pas la religion. Les mathématiques, ça contredit pas la religion. Les langues, ça contredit pas la religion. Wallahu a'lam. Donc tu peux devenir professeur de ces choses-là. Pas forcément professeur, tu peux même étudier ces choses-là. Mais ça ne devra pas passer avant tes sciences religieuses. Les sciences religieuses, c'est la priorité. Allah Ta'ala, dans le Coran, il dit à son prophète, ce qui est valable pour toute l'humanité, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Les savants ont expliqué ce verset en disant, c'est-à-dire, apprends en premier, avant tout, la parole du Tawhid, la ilaha illallah. Ce qui signifie que l'apprentissage des sciences religieuses et en premier lieu la science la plus noble, l'apprentissage du Tawhid, c'est une obligation qui sous-entend derrière un péché et un égarement pour celui qui n'accomplira pas cette obligation. Je pense que c'est quelque chose d'assez extrêmement clair, Inch'Allah Ta'ala. C'est quelque chose de clair. Taïb. Tamam. Taïb. Alors, ce qui nous concerne à ce titre, c'est la science religieuse, al-ilm al-shar'i. Nous entendons par ce terme la science au sujet de ce qu'Allah a fait descendre sur son envoyé comme preuve évidente et comme guidance, huda. La huda, c'est la guidée. Hein. Aussi faut-il savoir que la science. Alors, sur le terme guidé, boum, une faïda qui nous vient. Faïda très propagée chez les savants. Faïda très, très, très importante. Cette faïda, c'est que vous avez vu le terme guidé. La guidée. Il faut que vous sachiez que la guidée, elle est de deux catégories. Donc, les deux catégories, bien entendu, c'est Allah ou Ta'ala. On a ce qu'on appelle Allah Ta'ala, c'est-à-dire qu'il y a le dernier, entre parenthèses, le dernier mot. On a ce qu'on appelle en arabe, alors la guidée, elle se divise en deux catégories, retenez bien. Vous avez la guidée qu'on appelle en arabe Hidayatul Irshad. La guidée, on va dire, on va la traduire en français, la guidée d'orientation. La guidée d'orientation. Ça, c'est les humains. Allah Ta'ala, il fait qu'il y ait des créatures parmi les croyants qui guident les gens, mais attention, qui guident les gens dans leur en tant qu'orientateur. Ils te montrent le droit chemin. Ils te montrent le droit chemin. On est d'accord. Attention, il y a une différence entre les deux. Celui qui n'a pas compris pourra toujours nous solliciter pour expliquer. La deuxième catégorie, on appelle ça Hidayatut Tawfiq. La guidée de réussite. Ça, c'est la guidée du cœur, celle qui n'appartient uniquement qu'à Allah. On a des gens qui orientent. Ça, c'est la guidée irshad, d'orientation, de guidance. Ce sont des gens, des croyants qui vont te montrer, essayer de te diriger au maximum, etc. Les ulama, les croyants, les tout ce que tu veux. Mais ils n'ont pas le pouvoir de guider ton cœur. Ils n'ont pas le pouvoir de guider ton cœur, ça. Ça appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ce qu'on appelle la deuxième catégorie, hidayatut tawfiq, c'est-à-dire que c'est la guidée du cœur, celle qui n'appartient uniquement qu'à Allah, Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est bien de savoir que concernant la guidée, il y a deux guidées. Donc c'est très important parce que si quelqu'un te dit c'est pas toi qui guide, c'est pas toi qui guide, etc., tu lui dis c'est pas nous qui guidons, mais nous on fait les causes parce que il y a une certaine guidée qui existe, on appelle ça la guidée d'autre. Hidayatul Irshad, c'est la guidée d'orientation. On peut traduire par la cause d'humain. On peut l'expliquer comme ça, le traduire comme ça. Oui, si on n'arrive pas à le traduire comme nous on l'a traduit en tant qu'enseignant, vous pouvez le dire comme ça, la cause d'humain. Mais c'est mieux de dire la guidée. À la rigueur de dire la guidée humaine. On enlève la cause. La guidée. Il faut enlever cause. C'est une cause à la base. Mais on ne fera pas la différence. Là, ici, on ne fera pas la différence. Est-ce qu'on parle de guidée ou pas? Il faut dire la guidée. La guidée, après ce que vous voulez, d'humain ou de croyant, c'est celle qui consiste à orienter, à diriger une personne. Il n'y a pas de souci. Ma fille mouchkine. Où est-ce qu'on en était? Voilà, ça c'est une faïda pour vous. Hein. C'est une faïda, c'est bien à connaître ces choses-là. Cheikh Al-Othaymeen à la suite nous dit: Aussi faut-il savoir que la science qui mérite les éloges et les compliments, c'est la science qui traite de la révélation. Naham, les sciences religieuses, sachez qu'elles sont basées sur une révélation. Sur une révélation, les sciences religieuses, elles sont descendues d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah. Donc elles ne sont pas comparables avec des sciences qui sont mondaines. On fait une petite analogie très importante, très très importante pour vous. On peut faire l'analogie également des lois. On ne compare pas les lois d'Allah qui sont des lois divines avec les lois des humains qui sont des lois terrestres. Taïb, elles n'ont pas la même valeur. Et pourtant, malheureusement, regardez cette bêtise et cette mécréance de ceux, alors c'est pas une mécréance absolue, attention. Hein. Mais en général, on parle pour les kuffars, les mécréants, qui eux ont valorisé, ont fait passer avant les lois terrestres des humains, les lois inventées par les humains, sur les lois divines, les lois d'Allah. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Eh bien là, c'est une petite parabole pour dire que les sciences religieuses, on ne va pas les sciences mondaines les mettre au même niveau que les sciences religieuses. C'est une supercherie. C'est une révélation, subhanallah. Regardez la parole d'Allah qui nous dit, le verset qui nous dit, en parlant du prophète, La yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Il ne prononce pas sous l'effet de la passion, ceci est une révélation. Vous avez vu le terme passion dans le verset? C'est juste une parabole, hein, ce n'est pas l'explication du verset. Hein. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport aux autres, lui, il prononce selon une révélation, pas avec ses passions. Donc, quand on veut comparer quelque chose de la révélation avec quelque chose de la vie mondaine, c'est comme si on comparait la révélation aux passions, subhanallah, aux passions. Les sciences mondaines, entre parenthèses, hein, c'est beaucoup tiré de la passion, peut-être pas les maths et d'autres, mais. Par exemple, la philosophie, même l'histoire, même l'histoire aujourd'hui et peut-être même la géographie, tout ça c'est de la supercherie. Eh oui, faut le savoir. Hein. L'histoire, elle est trafiquée. Ils disent dans ce qu'on a appris quand on était petit à l'école, il faut savoir que c'est orienté. C'est orienté. Voilà, ce ne sont que des théories, effectivement. Rien de prouvé, effectivement. Effectivement. Nous, le Coran. Jusqu'à aujourd'hui, ils découvrent des choses que nous, on sait depuis 1400 ans. C'est pas eux qui vont nous faire la leçon. Mais sachez que il y a beaucoup de, comment on appelle ça, si vous préférez, c'est des théories ou alors des mensonges orientés pour, ils vont jamais, bon, alors on va pas rentrer dans la politique, tout ça et tout. Mais est-ce que dans l'histoire, aujourd'hui, depuis qu'on est petit, ils ont parlé de la colonisation? Etc. Non, ils vont dire que les autres pays, on est en accord avec eux pour les ressources naturelles. Non, non. Est-ce qu'ils disent, par exemple, les Occidentaux, quand on est petit, nous apprennent que faut dire la vérité, hein. On est là pour dire la vérité, on n'est pas les pays occidentaux. Ils ont une politique d'impérialisme. Ça, c'est jusqu'à aujourd'hui, hein. Jamais ils vous diront qu'ils sont des impérialistes. Eux, ils vont vous dire on est des voyageurs, on est des. Subhanallah. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont impérialistes. Ils ont vidé, aspiré l'Afrique, et jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas encore. Etc., etc. Toutes choses que normalement vous devez savoir, hein. J'espère que vous savez. Par exemple, si vous regardez les autres pays, tous les pays africains, tous les pays, même les pays asiatiques, hein, et d'autres pays occidentaux, bon, l'occidentaux, c'est pas dans l'absolu, hein, mais ce genre de pays qui ont le plus été colonialisés, ils n'ont jamais mis les pieds dans un autre pays. Ils n'ont jamais colonialisé. Vous savez qu'il y a même des pays du Maghreb qui disent c'est vraiment ancré chez eux dans leur. On appelle ça le dostor. Le dostor, c'est. Comment on appelle ça en arabe? Le dostor, c'est le. Subhanallah, le. Comme le livre. La constitution, pardon. En arabe, c'est la constitution, le dostor. Ils ont pour constitution. On se mêle pas des trucs des autres pays. On n'envahit pas les autres pays. Eh oui, les Chinois. Peut-être ils se sont attaqués entre eux, Japon, Chine, je sais pas, tout ça. Sinon, ils n'ont jamais envahi un autre pays. Donc ça, comme vous le savez, c'est propre à certains pays qui veulent nous faire croire dans l'histoire. On peut même pas leur faire confiance. On peut même pas leur faire confiance. Vous aurez confiance, vous, en des gens qui ont éradiqué leur propre religion? Qui ont renié leur propre religion, tué les gens de la religion à l'époque, etc., etc. Donc on ne va pas rentrer dans un débat, c'est juste pour vous dire, voilà. Cheikh Al-Othaymine nous dit, aussi faut-il savoir que la science qui mérite les éloges et les compliments, c'est la science qui traite de la révélation. On est bien d'accord. La science au sujet de ce qu'Allah a fait descendre sur son envoyé uniquement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en effet, celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la connaissance profonde intelligente de la religion. Il a également dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes n'ont légué ni dirham ni dinar, ils n'ont légué que la science, celui qui s'empare de cet héritage s'empare d'un bien considérable. On constate donc, hein, dans la parole de Cheikh Al-Othaymine, on constate que dans la parole du prophète également, alayhi wa sallam, il y a une indication que ce qui mène au paradis et la science qui a le plus de valeur auprès d'Allah, ce sont les sciences religieuses. Donc ça, dans un premier temps, toi, en tant qu'étudiant débutant, tu dois avoir cette conviction. Avoir cette conviction. Ne va jamais comparer les sciences religieuses qui sont d'une valeur inestimable. Elles doivent avoir une place dans ton cœur. Si tu veux continuer jusqu'à la fin de ta vie à étudier, si tu veux aimer cette science, si tu veux qu'elle soit ton billet pour le paradis, fais-la entrer dans ton cœur. Dès le début, les sciences religieuses, donne-leur une place dans ton cœur inestimable. Et là, tu vas commencer à voir les fruits. Tu vas commencer à t'y attacher. On essaye de vous donner une sorte de petit remède pour. C'est un petit remède, hein. Et surtout, demande-le à Allah le matin après la salat al-fajr. La première chose, ou alors le troisième tiers de la nuit avant le Fajr, demande à Allah Ta'ala, comme le faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il demandait, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Avant toute chose, avant le risque et avant les œuvres acceptées, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il demandait, Ô Allah, rétribue-moi, donne-moi, je te demande, la science utile. Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il a expliqué cette dua en disant, regardez. Sur trois choses que le prophète demande tous les matins, la première chose, il demande la science utile. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Donc ça, c'est une faïda très, très, très importante. Mashallah, Ahsante, je vois un petit peu les commentaires des frères. Théorie du complot, néocolonial. Les gènes, j'ai pas saisi. La laïcité et la démocratie sont plus que des idéologies. Des idéologies, pardon, ce sont des doctrines, effectivement. La guidée est de deux catégories, Shir Sadio, Barakallahu Fik, à comprendre. Premièrement, il y a la guidée d'orientation par la cause des gens nécessaires, Ahsant. Deuxièmement, il y a la guidée vers la réussite, Allah, c'est-à-dire la guidée du cœur. Mashallah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Barakallahu fikum, les frères. Wa jazakumullahu khayra. Alors. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit. Donc également, hein, comme cité dans le hadith, l'héritage des prophètes, c'est pas la philosophie, c'est pas ceci, c'est pas cela. L'héritage des prophètes, c'est pas non plus des biens mondains, l'argent, les grands palais, tout ce que vous voulez, de l'or, non. Ce qu'ont légué les prophètes, c'est l'islam. On a parlé dans un cours précédent de l'islam général. Ah, je crois qu'on en a parlé dans les trois fondements. Je me trompe de classe, je m'excuse. En tout cas, les prophètes, les messagers, comme cela a été mentionné par Mohammed, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont légué l'islam, c'est-à-dire le tawhid, les sciences religieuses, mais rien de mondain. Donc celui qui a compris ça, il a tout compris, que la valeur sûre au jour d'aujourd'hui et au jour d'hier et au jour de demain, la valeur sûre, c'est dans un premier temps l'islam, le tawhid, à travers les sciences religieuses. Celui qui du jour au lendemain comprend, oh que l'islam c'est la vérité, oh que le tawhid c'est la vérité, oh que le comportement c'est la vérité, oh que il faut que j'apprenne le fiqh parce que je vais apprendre comment Allah Ta'ala m'a demandé de l'adorer, etc., etc. Faut que j'apprenne également le Coran, la langue arabe, etc. Il devra, dans un même temps, parce que sinon ça sert à rien, tu auras compris quelque chose, mais tu vas pas le mettre en pratique. Dans un même temps, il devra comprendre que ça passe par l'apprentissage des sciences religieuses. C'est inévitable. Inévitable. Une fois que tu as compris ça, bah, faut l'apprendre et le mettre en pratique. Comment tu vas l'apprendre? La réponse, vous la connaissez. Malheureusement, c'est vraiment malheureux, au-delà de tout ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire que les temps deviennent tellement difficiles avec la crise, le coronavirus, il y a beaucoup de gens, ils ont perdu leur emploi. Ça a été un peu le cas pour nous également, pas perdu, mais vraiment une descente en flèche, ce qui nous a amené à voilà, dans un même temps, ça a été un bien, on a toujours souhaité ouvrir un institut, mais dans un même temps, de demander une petite compensation, ça se fait beaucoup, mais au-delà de ça, ça ne doit pas être une barrière pour que les gens se bousculent à apprendre. Ça ne doit pas être une barrière. On a combien d'abonnements? On achète des choses à des prix incroyables et tu ne peux pas économiser ou te débrouiller parce que si tu demandes à Allah, je vous jure par Allah, par expérience, et je pense que certains en ont déjà fait l'expérience parmi vous, si tu demandes à Allah qui te donne la capacité financière ou physique ou ce que vous voulez de pouvoir apprendre les sciences religieuses ou de faire la hijra, d'adorer Allah parce que ça demande un certain petite compensation financière, wallah qu'Allah il va te donner. Wallah qu'Allah il va te donner. De là, c'est dans un verset du Coran. Wa man yattaqillah, celui qui craint Allah, Allah Ta'ala yaj'al lahu makhraja, il lui fera une ouverture, wa yarzuquhu, et il le rétribuera, il lui donnera sa subsistance, min haythu la yahtasib, de là où il ne s'y attend pas. Wallahi. Il y a des étudiants à l'époque, à l'Institut de Sheikh Mohbel, ils sont partis, ils avaient rien du tout. Rien du tout. De quoi tenir un mois, voire une année au pire. Et ils sont restés des années. Comment ils ont fait? Parce que c'est Allah ou Ta'ala, ils ont craint Allah, ils ont demandé et Allah il leur a donné. Donc ce n'est pas non plus une excuse, je n'ai pas le moyen, je n'ai pas. Après, c'est vrai qu'il y a certaines institutions, c'est pas abordable à tout le monde. C'est vrai, c'est pas abordable pour tout le monde. Nous, on a fait en sorte que ça soit vraiment abordable. Il y a certaines institutions, c'est trop. C'est trop. Faut pas non plus que ce soit un commerce. Mais voilà, donne-toi les moyens, faut savoir ce que tu veux. Faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux des abonnements de télé, de téléphonie à 100, 150 euros tous les mois, ou alors tu veux de prendre un petit peu sur ce que tu as, et ça va être un grand, grand, grand bien pour toi. Aujourd'hui, les gens, le shaitan, il leur fait une barrière. S'il y a cette, s'il y a ce paramètre de s'investir un petit peu financièrement, et eh ben, ça veut dire que c'est pas bien, ça veut dire que faut pas, ça c'est un stratagème du shaitan, c'est complètement faux, hein. C'est complètement faux. Donc voilà, et il y a d'autres paramètres, hein. Il n'y a pas que le paramètre, un des paramètres principaux ou principal que je vous ai mentionné, il y a d'autres paramètres pourquoi on a établi cette règle. On s'est rendu compte également, hein, ça va peut-être vous étonner, mais on s'est également rendu compte que les gens qui payaient, tout simplement, hein, sans, on va pas mâcher les mots, hein, les gens qui payaient étaient plus sérieux. On a essayé de faire du gratuit, on avait un quota de gens gratuits, on a essayé, hein, on l'a pas dit. C'est-à-dire que quand des gens se présentaient à nous, excusez-moi, on n'a pas les moyens, vous pouvez nous aider, on avait un quota. Un quota de, je ne sais pas comment on peut dire, 1 ou de 1 à 5%, où on leur disait il n'y a pas de souci. Et malheureusement, à part peut-être une ou deux personnes, la plupart, ben, comme c'est pas payant, ils viennent quand ils veulent, ils viennent pas, ils abandonnent, voilà, c'est pas sérieux. Donc c'est ce qui nous a amené à. Moi, je transfère, hein, je transmets de la personne qui s'occupe derrière de tout ça. C'est pas moi, hein. Moi, on me transmet. Bah voilà, les gens, quand ils payent, ils sont plus sérieux. Comme j'ai payé, faut que j'aille au cours, etc. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, hein. Attention, on n'a pas dit ça. Mais c'est une des règles pourquoi aujourd'hui, bah voilà, on fait plus. On a voulu faire du gratuit, on le fait plus. On le fait plus parce que les gens, ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Donc voilà, c'était juste. Wafik Barakallah, Cheikh Ibrahim, Ibrahim Alex, Wafik Barakallah. Vous nous aviez parlé d'une session questions-réponses sur la Hijra avec la classe des anciens. Je m'en souviens plus, Ibrahim, je crois. C'est toujours au programme. Ah, ou alors on l'a pas encore fait, je devais le faire. Ah oui, tu m'as fait rappeler, j'ai complètement oublié la session questions-réponses sur la Hijra. J'ai complètement oublié, je m'en excuse, je vais noter ça. Une session questions-réponses à l'Institut pour sur la Hijra. D'accord, c'est noté, Cheikh Ibrahim Barakallahu fik, j'avais complètement oublié. On va juste finir la page ici de Cheikh Al-Othaymine parce qu'après le sujet dont on était en train de parler, le premier chapitre, il sera terminé. Alors, on en était où? Alors. Comme l'on sait, ce que les prophètes ont légué comme héritage bel et bien est bel et bien la science, qui a pour objet la loi, charia d'Allah, et rien d'autre. Les prophètes, paix sur eux, prière et paix sur eux, n'ont pas légué aux gens la science des techniques et tout ce qui est en rapport avec celle-ci. D'ailleurs, quand l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé à Médine, lors de son hégire, il a trouvé des gens en train de pratiquer la pollinisation manuelle des palmiers. Quand il les a vus se fatiguer dans la pratique de cette technique, il a dit des paroles qui font comprendre que ce n'est pas la peine de le faire. Ils renoncèrent à cette pratique, mais la récolte fut mauvaise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: Alors, vous savez mieux que quiconque ce qui se rattache à votre intérêt mondain. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas forcément une maîtrise des sciences mondaines dans certains, dans la culture, dans, etc., dans certains domaines. Il l'a avoué lui-même. Hein. Regardez ce qu'en ont tiré les savants par rapport à ça. Les savants en ont tiré. Si c'était là la science des techniques qui est concernée par l'éloge d'Allah, l'envoyé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, serait plus savant des gens à son sujet. C'est-à-dire que si la science qui était la plus importante ou alors égale aux sciences mondaines ou celle dont parle Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les sciences mondaines. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait jamais dit: Vous savez mieux que quiconque ce qui se rattache à votre intérêt mondain. Il aurait eu également, il serait un savant dans les sciences mondaines. Mais comme ce n'est pas le cas, on en tire, on en déduit, les savants en ont déduit que les sciences mondaines, bah, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Taïb. C'est donc la science religieuse qui fait l'objet des éloges divines, et celui qui s'y adonne est loué. Cependant, je ne nie pas le fait, Shri Lothami nous dit, je ne nie pas le fait que autre science soit utile. Seulement, elles sont une arme à double tranchant. Attention, attention. De ce que je me souviens dans la suite de la parole de Shri Lothami, il ne va pas détailler ça. Mais nous, Inch'Allah, au Ta'ala, en tant qu'étudiant débutant, je vais vous détailler un petit peu ce sujet. Shri Lothami dit, seulement elles sont une arme à double tranchant. Alors, il y a plusieurs Wafiq Barakallah Shir Abu Yusuf qui nous dit, on apprend beaucoup de choses. Hein. Comme on a vu précédemment, hein, où Shir Al-Thaymi, je vous avais dit que Shir Al-Thaymi, il dit, en étudiant avec un sheikh, je ne me considère pas comme un sheikh, hein, mais en étudiant avec une personne qui a des connaissances, le sheikh fait allusion au savant, tu vas apprendre plus en un cours qu'en 20 ans, plutôt qu'en 20 lectures de 20 ouvrages. Voilà, ça veut tout dire. Barakallahu fik Sheikh Abu Yusuf. Wafik barakallah. Donc, seulement, elles sont une arme à double tranchant. Donc ça, c'est une arme à double tranchant. Les sciences mondaines, elles sont une arme à double tranchant dans plusieurs domaines, de plusieurs manières, si vous voulez. Le shaitan, il peut utiliser les sciences mondaines contre vous. Alors, comment ? Alors, dans un premier temps, avant de vous donner la science de vous répondre, dans un premier temps, on va vous poser la question. À votre avis, comment le shaitan il peut vous avoir par rapport aux sciences mondaines? À votre avis. Là, je vous pose la question. Hein. À votre avis, comment, par rapport aux sciences mondaines, le shaitan, il peut vous détourner, c'est à double tranchant d'apprendre les sciences mondaines, à votre avis. Perte de temps, très bien répondu. Si elles sont mal utilisées, très bien répondu également, Cheikh Mashallah, Cheikh Sadio. Également, si elle est mal utilisée, très bonne réponse. Également, Nasir Ibrahim, en nous donnant des connaissances en désaccord avec le Coran, très bien répondu. Très, très bien répondu. Perte de temps pour une étudiante également, très bonne réponse. Eh oui, tu vas perdre ton temps. Tout ce que tu pourrais apprendre dans le Tawhid, toi, tu veux devenir un spécialiste des mathématiques et les maths, tu les fais passer au-dessus de tout. Je veux devenir un savant dans les maths. Et Tawhid, tu connais rien du tout. Le shaitan, il t'a eu. Par crainte d'un manque de subsistance mondaine, Naham, Arsent également. C'est bien, vous avez donné des bonnes réponses. Le shaitan également, il va te faire tomber dans un cercle vicieux. Tu vas aller à l'université, tu vas dire j'ai pas le temps d'étudier dans un institut des gens de la Sunna, j'ai pas le temps d'apprendre les sciences religieuses. Ou alors, attention, ça également c'est très dangereux. Le shaitan, il peut te diriger vers des sciences qui, au contraire, au lieu d'être un bien pour toi, elles vont être un danger. La science de la rhétorique, par exemple, ilmul kalem, c'est une science des gens de l'innovation. La philosophie, tu peux tomber dans la mécréance. Comme c'est beaucoup, en ce moment, il y a beaucoup une polémique sur, pas polémique, mais quand même, sur la psychologie. Il y a certains savants, ils disent, dans l'absolu, tu n'apprends pas la psychologie parce qu'il y a de la mécréance. Il y a d'autres savants, ils disent, tu peux apprendre, mais à condition déjà d'être un savant dans les sciences religieuses, pour pas tomber dans le piège de la psychologie. Et on a quand même des musulmans, ils se disent, non, moi je vais apprendre la psychologie, et après ils sont carrément détournés de la vraie voie. Hein. Ils disent n'importe quoi, ils vont même après, ça va les amener à tomber dans la sociologie, la sophrologie après, après c'est fini. Le développement personnel, barakallahu fik, effectivement. Le développement personnel, alors après, ils vont se retrouver... bon, peut-être que j'exagère, hein, mais après, c'est pour vous dire le pire qui puisse leur arriver, ils vont se retrouver bouddhistes. En train de faire du yoga avec des bougies, tout ça. Ils vont se retrouver là-dedans. Le shaitan, il va t'avoir. Tu vas te retrouver à faire ce qu'on appelle après des séances d'hypnotisme. Tu vas dire, mais non, c'est bien pour le musulman, il va se calmer, il va. Mais il faut savoir que les savants disent, dans l'hypnotisme, il y a forcément l'intervention des shayatines, des djinns. Eh ouais, faut le savoir, les savants disent ça. Il y a un rapport avec les djinns dans l'hypnotisme. Vous le savez peut-être pas, mais moi je vous le dis. Les savants le disent. Donc vous voyez, après, le shaitan, tout doucement, toi tu connais pas, il te fait passer d'un point à un autre, d'un point à un autre, et tu finis comment? Merci, au revoir. La sunna, les compagnons, tout ça, pour toi, c'est loin. Pour toi, c'est loin. Et c'est là que tu vas commencer à dire, oh, ils sont trop durs. Vous êtes trop durs. Oh là là, c'est trop dur. Vous êtes trop durs. Bah voilà. Non, c'est toi. T'es trop parti. C'est toi, en vérité. T'es trop parti dans le modernisme, dans le développement personnel, comme cela a été dit. Donc voilà. Pouvez-vous préciser les méfaits de la psychologie, barakallahu fikum. Bah, comme on vient de dire, hein, la psychologie. Alors, tu as la psychologie musulmane, on est d'accord. Mais aujourd'hui, tout est mélangé. Quand tu vas étudier la psychologie, tu vas pas partir l'étudier à Médine. Tu vas partir l'étudier dans les écoles, en France, etc. Et ça, c'est mélangé avec de la philosophie. Ou alors, c'est mélangé avec de la psychologie des kuffars, pas des musulmans. Donc, forcément, il y a de la psychologie. Mécréante, il y a des idées, des fondements, tout ce qui est de la mécréance. Et forcément, toi, ça va te massacrer ta croyance, ou alors ça va te massacrer ta fitra, ta bonne prédisposition musulmane, celle sur laquelle Allah Ta'ala t'a créé. Une ambiguïté. Alors, au-delà de ça, c'est rempli d'ambiguïté. Rempli. Les ambiguïtés, c'est des flèches dans le cœur, hein. On a une étudiante qui nous dit, même si tu es croyant, certaines sciences développent une autre croyance, l'une chassera l'autre. Mashallah. Allah ibarak. C'est très très bien dit. Alors là, Mashallah. Même si tu es croyant, certaines sciences développent une autre croyance, l'une chassera l'autre. Voilà, c'est ta réponse, très cher étudiant. Tu ne pourras pas mettre la psychologie dans ton cœur, la sociologie dans ton cœur. Tu ne pourras pas mettre dans ton cœur, comment on appelle ça, la falasifa en arabe, c'est la philosophie dans ton cœur. Tout ça, tu ne pourras pas. Ça va te faire un cocktail de mécréances. Et comme nous l'a si bien dit notre étudiante, le tawhid et tout le reste, ben voilà, il n'y aura pas la place, il n'y aura plus la place. Attention, 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 attention. Vous savez, ici, si j'aurais un genre de sonnette là où tu appuies dessus, ça fait ton, j'aurais appuyé dessus. Pour vraiment que vous compreniez, mise en garde contre tout ça. En tout cas, la science mondaine s'oppose souvent à nous détruire ou mal former. C'est le but du shaitan. Effectivement, effectivement. Donc, Inch'Allah, au ta'ala, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Barakallahu fikum, wa hayakum Allah. En tout cas, franchement, on commence vraiment à prendre plaisir avec votre classe, hein, au niveau de la participation, des réponses, c'est bien. Franchement, c'est ce qu'on attend. Comme dans la classe des anciens, ça y est, ils sont vraiment comme chez eux, hein, c'est leur institut, hein. Comme on leur a dit, au bout d'un certain temps, tellement vous vous impliquez, tellement vous participez, etc., c'est votre institut, hein. Naham. Donc voilà, ça fait plaisir. Et il faut savoir que c'est une méthode d'enseignement qui sera vraiment encore plus profitable. Vous savez qu'il y a des gens, ils ne savent pas comment participer, ils sont vraiment extrêmement débutants, ils ne connaissent pas les réponses, mais en entendant les autres élèves, ou alors en lisant les versets, les commentaires des élèves, etc., vous savez que c'est du rin pour eux. Ça les oriente. Là, ils sont vraiment en train de s'éduquer, en train d'apprendre. Et ça, c'est très important. Au-delà de toute fausse idée ou mauvais waswas, etc. Vous inquiétez pas pour ça. Nous, on est loin de ça. Inch'Allah ta'ala. On fait les causes. En tout cas, barakallahu fikum. Je retiens j'avais complètement oublié. Faut toujours me rappeler quand j'oublie. Un rappel, un genre de conférence, un rappel pour tous les élèves. Question-réponse sur la hijra. On le fera, inch'Allah ta'ala. Je vais le noter. Barakallahu fikum. وسبحانك اللهم وما بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها؟